Et bonsoir, bienvenue sur Fréquence Mistral Digne que vous écoutez sur 99.3 FM dans votre émission Catalyse avec Rémi.
Merci à tous ceux qui m'écoutent.
Et ce coup-ci, il n'y en a qu'un.
Eh oui.
On va pas se tromper.
L'autre, il a disparu.
Donc avant d'accueillir nos invités, donc Jaco Collectif, juste un petit mot, je suis allé la semaine dernière, samedi dernier, sur Saint-Auban et j'ai découvert une nouvelle association qui est née après la fermeture du Café Quoi sur Fort-Calquier, qui a un petit peu remué les choses au niveau culturel dans le département. Donc une association qui s'appelle De-ci, de-là. Et en fait, c'est un groupe de musique qui s'appelle aussi De-ci, de-là. Et ils ont organisé une scène ouverte à la Maison Commune à Saint-Auban. Et c'était vraiment, vraiment très sympa. Donc voilà, j'en profite pour les saluer. Et puis, il ne faut pas oublier les scènes ouvertes qui vont avoir lieu sur Digne. Donc, la semaine prochaine, ça sera à l'Âge de Bière, le jeudi 18 avril, à partir de 19h. Et celle d'après, ça sera le 2 mai au Café du Cours. Voilà pour les dernières infos. Donc, nous accueillons Jaco. Alors, Jaco, J-A-K-O.
C'est ça.
Collectif. Ça. OK.
Et bonsoir.
Alors... Par qui on commence?
Alors on peut faire par les aiguilles d'une montre.
Ah ouais.
Moi je vais bien commencer.
Les présentations quoi. Hein. Ouais. Présentations, nom, prénom, tout ça. Allez.
Moi c'est Martin, je suis le batteur dans le projet. Et puis voilà quoi, on s'amuse beaucoup. Hein.
On s'amuse beaucoup. Ouais. Moi c'est Oscar, je suis bassiste dans le projet et je suis un peu le créateur de l'initiative, disons. Voilà, c'est ça. Avec beaucoup d'amusement, comme dit Martin.
Et avec un absent aussi.
Avec un absent,
là ce soir, mais qui fait partie de la création du projet.
Absent, qui est donc Kevin, le guitariste et co-créateur aussi du projet, qu'on salue bien.
Voilà. Et moi, c'est Justin, donc le claviériste du projet. Voilà.
Donc batterie, basse,
guitare et clavier.
C'est
voilà,
ça.
C'est okay. Ça, la formation.
Le quartet de choc.
Quartet, comme au jazz.
C'est voilà, ça. Ouais. C'est très, très influencé de jazz. Hein. On est des jazzeux, comme on dit dans le 04.
Ok, et ben peut-être savoir un petit peu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Ok, pas de souci.
Savoir un petit peu d'où ça vous vient, la musique.
D'accord, de façon personnelle.
De okay, façon d'accord. Personnelle.
Alors, moi j'en ai toujours plus ou moins fait de la musique. J'ai un père musicien qui est pianiste. Moi il a voulu que je fasse de la guitare en premier, donc on a fait de la guitare. C'était cool. Donc j'ai pas beaucoup de formation, je suis pas trop le conservatoire. J'ai eu des profs particuliers que m'a ramené mon père. Ensuite, vers l'âge de 18 ans, j'ai voulu revenir un petit peu au piano et bosser le jazz un petit peu au piano. Donc, il m'a pas mal accompagné sur ce chemin-là. Et il m'a présenté à Alain Solaire, qui est un musicien de la région.
Alain Solaire, qu'on salue bien. Évidemment.
Qu'on salue, voilà, il connaît Fréquence Mistral.
Qui est du coin, qui est à Château-Arnoux.
Ouais. Et donc, il m'a accompagné là, pendant 7 ans sur une formation plutôt jazz. Et c'est donc à l'AMI, à son association, que j'ai pu rencontrer Oscar, Kevin... Martin, on s'est tous rencontrés là-bas et on a monté le projet un peu plus tard, quoi. Voilà.
Voilà, bah c'est. Alors moi, pour ma part, j'ai eu un parcours qui a commencé un petit peu plus tard. Je me suis intéressé à la musique quand j'ai eu 12 ans, parce que je me rappelle de vacances en Bretagne où mon petit cousin m'avait dit ah, je veux me mettre à la guitare. Alors moi, de concurrence, moi aussi, je vais me mettre à la guitare. Et là, je me suis intéressé un peu à la chose et puis j'avais eu un disque des Red Hot Chili Peppers, la Blood Sugar Sex Magic, qu'on m'avait offert à un anniversaire, et ça m'avait bouleversé. Je savais pas que ça existait, quoi. Donc là, je me suis intéressé à la musique, et là j'ai fait la connaissance de Ben Cha à basse, qui est le percussionniste de Chico et de Gypsies, là, qui était à Valensol, qui m'a initié à la batterie, qui m'a jeté dans la piscine, quoi, disons. Et c'était vraiment des super moments. De cours particuliers, puis je me suis intéressé ensuite à la basse et j'ai eu une formation un peu plus académique, quoi, avec des profs particuliers qui allaient un peu plus en profondeur dans l'harmonie, dans
tu
la
peux,
technique.
Tu peux les citer, tes profs
Nicolas Roux, par exemple, ouais. Qui est un bassiste du coin aussi, qui, je sais plus où il
Jeff Corallini.
Jeff Corallini, j'ai suivi quelques cours, j'ai pris 3-4 cours avec Jeff Corallini à Carpentras, j'ai ensuite rencontré Laurent David. Laurent David après. Ah non,
c'est incroyable.
Ouais. C'est incroyable. Et Alain Soler ensuite, ouais, quand j'étais au lycée, par l'intermédiaire de Martin et Kevin, j'ai rencontré Alain Soler aussi, qui m'a beaucoup apporté dans mes connaissances sur la musique. Et puis ensuite Laurent David, alors là c'est la cerise sur le gâteau, évidemment. Laurent David m'a vraiment permis d'avancer quoi, dans la basse électrique. Pour le coup, il a vraiment soufflé sur les braises dans la cheminée, quoi. Il m'a vraiment mis sur les rails. Et donc ensuite c'était une formation un peu plus poussée à l'American School of Modern Music à Paris, qui est une petite école privée où là j'ai vraiment appris plus de choses et je me suis un peu professionnalisé entre guillemets avant de retourner dans le sud pour faire des trucs avec tout ce savoir accumulé, disons. C'est à peu près tout.
C'est pas mal.
Pour finir avec le trio présent ici, donc moi j'ai grandi dans une famille, donc mon père, grand amateur de musique américaine, lui-même a voyagé là-bas, il a vécu là-bas pendant une quinzaine d'années, donc il est revenu avec toutes ces influences dont j'ai hérité. Donc beaucoup de musique à la maison. Ma mère était une pianiste et chanteuse. Je me souviens que quand j'étais jeune, ils invitaient beaucoup d'amis, il y avait beaucoup de musique à la maison. Donc j'ai toujours baigné dans ce truc-là, quoi. Et donc c'était tout à fait naturel pour moi de prendre les percussions qu'il y avait et d'essayer de rejoindre le kiff, quoi.
Ouais.
Et ouais, ça a commencé avec des petits bongos, un petit djembé.
Beaucoup d'écoute de ce que je crois savoir aussi.
Ouais, carrément, beaucoup de musique à la maison. Mmh. Et donc ensuite, mes parents ils m'ont dit, on va te mettre au conservatoire, pourquoi pas. J'ai fait, allez, on y va. C'est là que j'ai commencé la batterie avec Christian Mariotti, à Manosque. Donc pendant 5-6 ans, 7 ans, j'étais avec lui. Il m'a initié à la batterie, à la lecture. J'ai fait du marimba avec lui, donc c'était vraiment sympa. Ensuite, j'ai continué avec ça, la batterie. Le moment, je dirais, qui a vraiment lancé la passion pour moi, c'est quand j'ai eu une batterie chez moi, parce qu'avant, je n'avais pas.
Ouais, mais c'est sûr.
Et puis là, c'est parti, quoi. J'en faisais 1-2 heures par jour, et puis ça allait super vite, quoi. Je comptais pas le temps, c'était super naturel pour moi. Et puis ensuite, la rencontre d'Alain Soler, on y revient toujours.
Ouais.
Qui m'a permis de rencontrer des musiciens du coin et rentrer dans mon premier groupe de rock à 16 ans, Passive Aggressive.
On les salue bien.
J'étais avec eux pendant quelques années, c'était très formateur. On a enregistré un EP.
T'as eu Cédric Beck en cours quand même.
J'ai eu Cédric Beck après, voilà, 17 ans, 18 ans.
Ouais.
Un des meilleurs batteurs de la région.
Ouais.
Ensuite, Alain Soler, il m'a envoyé à Paris, il m'a dit « Ouais, vas-y, va à Paris, fonce, moi j'avais plutôt envie, donc allez, on fonce. » Il connaissait des gens là-bas, dont Éric Barré, un grand saxophoniste. Et je suis resté 5 ans à Paris, j'ai joué dans différents groupes allant de la pop au jazz, des projets assez expérimentaux. Donc ça, c'était vraiment super, bien que j'avais du mal à m'adapter à la grande ville.
Mmh. On
s'y fait pas facilement, mais c'est sûr.
Donc au bout d'un moment, j'ai quitté Paris et je suis revenu ici, parce que je savais qu'il y avait des belles choses qui m'attendaient. Le collectif, hein, on est lancé là-dedans et on a hâte de voir la suite, quoi.
Ouais.
Mmh.
Ça fait combien de temps alors que Jaco Collectif est lancé ?
Est lancé, ouais.
Alors, ça fait, à l'origine, ça fait depuis un bon petit moment, parce que le Jaco Collectif, sous ce nom-là, ça s'est fait peut-être il y a 2 ans. Mais en fait, concrètement, ça a commencé surtout quand Kevin et moi, enfin Kevin qui est malheureusement pas là, mais quand on s'est rencontrés au lycée, donc c'était il y a 8-9 ans, un truc comme ça, en seconde, on est arrivés dans le même lycée, et puis alors moi je m'appelle Oscar, et il y avait un ami qui s'appelait Oscar aussi, donc on nous a fait nous rencontrer, ah là là, les deux Oscar, et donc il y avait cette bande-là de copains de Fort-Calquier qui traînaient avec Oscar, dont notamment Kevin, alors tu fais de la musique, moi aussi, t'as une Stratocaster, j'en ai jamais vu en vrai, c'est génial.
Et
j'avais beaucoup fantasmé sur cette Stratocaster. Et puis on...
C'est la fameuse sur laquelle il joue toujours c'est... ou pas?
Alors il a changé non, depuis, mais il l'a toujours. C'est sûr. Ouais. Et puis et en fait, à ce moment-là, donc moi j'étais batteur. Et on était dans un groupe de métal avec un copain qui s'appelle Romain Bonne, d'ailleurs que j'ai oublié de saluer la dernière fois, donc je le salue doublement ce soir-là s'il nous écoute.
Salut Romain.
Salut Romain. Et donc j'ai proposé à Kevin, bah tiens, nous on est que deux, viens avec nous, on va rigoler, quoi, on va faire du métal. On faisait des petites compos et on jouait super fort, vraiment c'était n'importe quoi. Et on avait fait un concert à la MJC, à la Fiesta des Lycées, c'est notre première expérience de musique collective. C'est là qu'on a commencé à vraiment composer de la musique ensemble et à se voir très régulièrement et à nouer des liens, quoi. Donc c'est à ce moment-là que le Jaco Collectif, il a commencé à exister, parce qu'avec Kevin, on se voyait tous les week-ends, sans jamais s'arrêter, on faisait de la musique. Dès qu'on avait 4-5 jours d'affilée, on les prenait, on enregistrait des maquettes, on faisait ce qu'on pouvait. Puis ensuite, avec les années, on a commencé à avoir plus de moyens, de connaissances, de compétences, et surtout de moyens aussi, parce que mine de rien on fait pas grand chose avec des bouts de carton, quoi, hein, donc on a commencé, enfin moi j'avais la chance d'avoir une grande maison, donc on pouvait faire beaucoup de bruit dedans sans déranger personne. Puis ensuite on a commencé à faire ça aussi avec Martin qui venait avec nous, Kevin et Martin et moi, on a composé une ou deux chansons, morceaux ensemble. On a commencé à jouer vraiment souvent, à jammer, on jammait pendant des heures et des heures à improviser, quoi. On a beaucoup improvisé. Et puis au bout d'un moment, au bout de 5 ou 6 ans, moi j'ai eu vraiment, vraiment envie de faire quelque chose de sérieux, quoi. J'arrêtais pas d'harceler Kevin, à lui dire on fait un disque, on fait un truc. Donc ça se faisait, on avait du mal à mettre ça en place. Et c'est quand on est rentré de Paris, en 2020, on a quitté Paris, on est rentré à Manosque. Et là, du coup, j'ai vraiment insisté sur le truc de... Bah voilà, créer un projet sérieux, faire un disque. Il y avait un peu l'idée d'une carte de visite à l'époque pour montrer un peu aux autres qu'on existait, essayer de se faire du réseau, quoi. Et donc c'est parti de là, quoi. On va dire que Jaco Collectif, ça fait 8 ans qu'on fait des trucs, quoi, disons. Mais...
Et alors comment on passe du métal au jazz fusion, enfin
Alain Soler. Alain Soler et la réponse à cette question. Que
déjà, dans ce qu'il a dit, on faisait des morceaux, pas des chansons.
Ouais, c'est vrai.
Du coup, au final, c'est. Enfin, est-ce que tu peux du coup nous dire la différence, s'il y en a une?
La différence, c'est qu'on connaissait pas de chanteur.
Ah, d'accord, ok.
On a essayé quelques années d'écrire des textes et de les chanter, mais ça a été une catastrophe. Donc. Et puis je me suis, enfin moi personnellement,
c'est un appel d'offres là, hein, s'il y a des chanteurs qui nous écoutent. Mais,
ouais, c'est ça, pas forcément, mais enfin moi avec les années, je me suis vraiment découvert une âme d'instrumentiste.
Ouais.
Je suis, j'adore les belles chansons, évidemment. Il y a plein de chanteurs et d'auteurs que j'aime beaucoup, mais c'est pas ce qui me touche le plus. Moi, je suis, on va dire que moi, ce qui va me faire triper, c'est les gros solos de guitare et les moments d'improvisation instrumentale et on va dire que j'ai été perverti par le manque de moyens, disons. Après ça, enfin voilà. pour ma part, c'est pas le
après,
cas.
Après, comme vous êtes tous les trois passés par du coup Alain Soler, donc quelque chose de très jazz. Au final, peut-être ça vous a manqué pendant un petit moment le côté chanteur, mais maintenant, enfin, il y en a pas forcément besoin, quoi.
On a appris à faire
ça. Suffire avec ce que vous avez, quoi.
Ouais, mais pour revenir à ce que tu disais, la transition du métal au jazz et tout ça, c'est... En tout cas, pour moi, c'était une progression assez naturelle. Au début, l'aspect très physique de la batterie, on tape fort, on fait des grands gestes. Il y a ce côté très impressionnant aussi dans la batterie, le métal. Et ensuite, vient une envie d'aller chercher vers la finesse et...
La complexité.
Il y a tout de nouveaux aspects techniques qui rentrent en jeu et... Et c'était assez naturel.
Ouais, c'est venu comme ça. Ouais.
C'était une période, quoi, le métal. Quoi.
Ouais, c'est pas fini.
Ouais.
C'est pas fini. Alors ça s'entend un petit peu dans notre album, par moment.
Et le clavier dans le métal?
Non, pas dans le métal. Non, moi par contre.
Ton père avait fait du metal prog.
Oui, oui, il a fait un album avec Cyril Achard, ouais, de metal prog. Ouais, c'est vrai. C'est
avec
vrai.
De l'orgue et des dingues.
Oui, 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 j'ai beaucoup écouté ce truc-là, qui est très prog. Après, j'ai découvert Animals as Leader, d'autres trucs de metal prog plus tard, que j'ai adoré.
Très, très technique et très brutal ouais. dans la musique. Et ça, c'est
mais on peut faire un lien justement entre le metal prog, le jazz, les musiques improvisées, toutes ces gammes qu'ils utilisent, ces rythmes complexes. Donc oui, là, il y a des ponts à faire aussi quoi, sur le prog. Nous, on se dit aussi prog un peu. Un rock peu. Prog, jazz rock, jazz fusion. On en parlait tout à l'heure.
Moi, j'ai un truc aussi qui... J'ai toujours été, enfin, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, mais j'ai toujours été très turlupiné par les côtés techniques. Disons, j'ai toujours été un peu dans le. Il y a toujours un petit côté de challenge. Disons que ça, je veux réussir à le jouer. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut aller plus vite c'est quoi. Donc, j'ai débloqué les doubles croches. Maintenant, il faut faire les sextolets. Tu vois. C'est un peu ça, quoi. Donc, c'est un truc que j'essaye de réprimer parce que je trouve pas que c'est la classe. Mais ça, voilà, ça fait partie de moi. C'est sûr qu'il y a cette espèce de challenge un peu que. Qu'on peut retrouver dans ce genre de musique, on parlait d'Animals as Leaders par exemple, quand on écoute ça, moi les premières émotions qui me viennent c'est oh la vache quoi, les mecs ils sont chauds quoi,
ça, là, te challenge,
ouais. Ça me challenge un petit peu, c'est sûr.
C'est, okay. Peut-être qu'on va passer deux de vos titres pour vous faire un petit peu découvrir, parce que
on parle beaucoup là.
Ouais, quand même. Hein. Donc, parce que là actuellement, vous avez sorti un EP.
Un
album.
On dit plutôt un album. Concrètement, c'est un EP avec du bonus. Mais moi, j'aime bien dire album parce que dans la démarche, c'est plus un album qu'un EP.
Il y a combien de titres en tout?
Alors 10 en tout.
Ok.
C'est un album.
C'est un album. Ouais, c'est ça. Un gros EP.
Ouais. Donc là, on va diffuser donc numéro 1 et Rustine. Ouais. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur chacun de ces morceaux? Qu'est-ce que vous essayez de faire passer, de partager dans ces morceaux-là?
C'est vrai que le premier truc que je voudrais expliquer, c'est que numéro 1, il s'appelle comme ça tout simplement parce que c'est le premier.
Ouais.
le tout premier qu'on a fait, c'est la première fois qu'on a joué de la musique tous ensemble.
Première session, ouais.
Avec Justin.
Notamment. Voilà, c'est là où je les ai rencontrés un peu.
Voilà, ça, donc
j'ai appris à les connaître.
Ce morceau, c'est une jam en fait. Hein. Mm. C'est une jam qui ensuite, au bout de 3 ans, a été peaufinée et bien écrite. Et puis on s'est rendu compte que. On n'avait pas de nom à donner à ça. C'est vraiment le point de départ, c'est numéro 1. Quoi. Voilà. Ouais, c'est ce que
c'est
je peux
la présentation.
Dire.
Ouais, exactement. Un peu ça, ouais. Exactement.
Et là, pour reprendre ce morceau-là en particulier, vous parlez de jam. Donc, jam, c'est un buff musical. Y en a un qui lance un truc et puis les autres.
C'est ça.
Qui a lancé le premier truc? Le premier jeu
c'est moi.
Toujours monsieur.
C'est beaucoup des morceaux de l'album, ils viennent des lignes de basse qui me viennent.
Il y en a pas mal. Il y a Slap at the Bass quand même.
Tempête solaire, Slap at the Bass, numéro 1. Nature Flow aussi.
Ouais. C'est un peu moins. Ouais,
si. Vraiment, c'est la ligne de basse qui a donné l'idée d'ensuite développer quelque chose par-dessus. Mais la ligne de basse, elle n'est pas si marquante que ça. Mais j'arrive, je dis, ah, j'ai ça. Qu'est-ce que ça vous inspire quoi. Ouais. Et ensuite, ça part. Quoi. Et Justin avait. Toi, ça t'avait inspiré des mises en place. T'avais eu des idées d'accord.
Ouais, voilà.
Avait ensuite écrit une mélodie par-dessus.
Mmh. C'est un peu
de la construction petit bloc par petit bloc. On a ça, où est-ce qu'on va avec? En termes de messages, il n'y en a pas forcément, mais...
Chacun amène un truc, quoi.
Chacun amène un truc, c'est ça.
Puis il y a un truc que je peux dire par rapport au deuxième morceau que vous allez entendre, c'est... vous allez entendre Alexandre Galzin à la batterie. Donc oui. C'était une période où j'étais encore
batteur,
à Paris,
ouais.
Et il jouait avec un autre batteur, donc voilà.
Je
voulais lui faire une dédicace.
Ouais, dédicace.
Dès là, c'est
ouais.
Cool.
Eh bien, on va découvrir donc numéro 1, suivi de Rustine de Jaco Collectif. We'll be right back. Et nous voilà de retour sur Fréquence Mistral Digne dans l'émission Catalyse avec Jaco Collectif. Collectif, pourquoi collectif? C'est pas un groupe? Qu'est-ce que c'est, Jaco?
La grande question.
La question mystère.
C'est pas est-ce que l'un de vous deux veut entamer le sujet?
Bah, c'est un peu à ton initiative à la base, mais moi je peux en parler, j'ai un peu compris qu'est-ce qui va se passer, quoi. donc collectif parce qu'il y a une dimension associative. Oscar en a profité pour créer une association, pour peut-être débloquer un petit peu des fonds. Il a déjà un lieu chez lui, avec, c'est là où on répète. Donc le but, c'est de s'enregistrer, de faire plus de morceaux, mais de façon un petit peu plus indépendante.
De manière générale, ouais, c'est ça, c'est collectif. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai vraiment toujours envisagé ça comme on est une bande de gens, on se connaît, on fait tous de la musique, et j'essaye toujours de connaître le plus de musiciens compétents et de musiciennes compétentes possible, d'accumuler le plus de matériel possible. On se prête beaucoup de trucs, on a acheté des choses en commun, par exemple, on a acheté un enregistreur en commun, on s'est tous cotisé, parce que ça coûtait 1 000 000 d'euros, donc on met des trucs ensemble, quoi. Collectif pour ça, parce qu'on partage les amplis, les batteries. Moi, j'ai du matos de Martin chez moi dans mon studio, mais tout le monde vient travailler dans mon studio. Donc, on se regroupe autour de mon petit home studio, qui n'est pas si petit que ça, d'ailleurs, dans lequel on peut travailler tous ensemble sans être confronté aux problématiques chiantes habituelles du « Ah, j'ai un garage qui sonne mal, je vais emmerder tous les voisins », ou alors « Ah, la salle de répète, elle coûte cher », ou « Ah, j'ai pas d'ampli », ou « Ah, on n'a pas de micro ». Avec le collectif, on peut avoir tout ça assez facilement, en fait. Ouais. Enfin, assez facilement.
Et puis, pour continuer un peu, il y a aussi un truc où on cherchait potentiellement d'autres artistes avec qui travailler.
Bien sûr.
Là, en ce moment, vous avez un projet, par exemple, avec un guitariste de Paris.
Ouais,
que vous êtes en train de développer. Donc, on sort de ce truc un peu qui est groupe, où bien sûr qu'on est en groupe, on est tous les quatre, tous les cinq. Mais il y a peut-être potentiellement une recherche d'autres artistes, quoi, et d'autres projets, et pas s'enfermer que dans un style ou que dans les mêmes personnes. Voilà.
Le mot collectif, moi, je l'aime bien parce qu'il garde la porte ouverte.
Voilà.
À ce qui peut arriver, et on n'est pas du tout ancré dans une esthétique ou dans un groupe de gens, on verra bien, quoi. C'est ça que ça veut dire, hein. Jaco collectif, merci. C'est l'avenir est devant nous.
C'est ça que ça veut dire.
C'est le crew.
C'est un grand crew, tu vois,
l'équipage.
Le crew.
Et du coup, comme on parle de lieu, donc vous avez un lieu pour répéter, et à quel endroit vous avez pu enregistrer votre album, et de manière vraiment qualitative, hein, de ce qu'on a pu entendre?
Eh bien, c'était une évidence pour nous de faire appel à Alain Solaire et son fils Anthony Solaire, qui ils ont un endroit qui s'appelle l'Atelier des musiques improvisées, l'AMI, à Château Arnoux, juste à côté d'ici. Et un endroit très riche en informations, et il y a du super matos là-bas, et ils nous ont tellement apporté, c'était vraiment une évidence pour nous d'aller enregistrer ce projet là-bas. Et ouais.
Voilà.
Puis ils nous ont beaucoup aidés sur la compo. Déjà, Alain est venu nous coacher un peu chez nous dans mon studio quand on répétait. Et donc on se connaît très bien. Ça a été très facile. Enfin, déjà, ça a été une évidence, comme dit Martin. Et puis aussi parce que c'était vraiment la pantoufle, quoi. Ça s'est fait tout seul. On se connaissait déjà très bien. On allait déjà très souvent dans le lieu.
Oui, on a pris beaucoup de cours là-bas. Ça fait longtemps.
On y va tout le temps. Toutes les trois semaines, on est là-bas. Donc c'est. C'était facile pour nous de faire ça, effectivement. Ouais. Enfin, facile.
Oui, non, après, voilà, il y a challenge du truc, studio. Quoi, mais quand même, il y a une dimension un petit peu, je sais pas moi, familiale un peu. On est encadré. Il y a moins de pression. Il n'y a pas le truc de on connaît pas l'ingé son. Bien sûr qu'il faut être efficace et qu'il faut aller vite, mais on a eu beaucoup de chance, quoi, d'être encadré par Alain et son fils.
C'est des gens qui travaillent vraiment très très bien. Ouais, donc, c'est vraiment très très cool. Ouais.
C'est incroyable.
Du coup, vous l'avez enregistré. En combien de temps? Comment vous vous êtes organisé? Est-ce que c'était
4 jours, voilà.
C'était de l'intensif, alors.
Ouais. En fait, l'album, il est live. C'est-à-dire qu'on...
On joue tous ensemble.
On joue tous ensemble, on est tous branchés en même temps. On n'a pas fait chacun notre tour. Nous en fait, la musique est relativement improvisée quand même. Relativement très improvisée. Même, parce que c'est très, on joue ensemble, on réagit. On fait des solos qui sont improvisés sur le coup. Donc, On a booké le studio pour 4 jours, c'était 2 ou 3 morceaux par jour. On en a fait parfois un peu plus, parfois un peu moins que ça. Et donc on arrive, on s'installe, on accorde les guitares, et puis là il y a Anto qui dit « Allez, on y va », clac, il lance le métronome, et là on joue, on fait 3-4 prises du même morceau.
Oui, pas beaucoup 3, de prises, tu vois, 3-4 prises, parce qu'on cherche pas à s'épuiser dans les prises interminables, quoi.
3-4 prises, et puis ensuite on prend une pause et morceau suivant. Et ensuite il y a eu du montage qui a été fait un peu entre ces 3-4 prises. On a écouté un peu les meilleurs moments, c'est-à-dire que c'est du live, mais par exemple sur un solo, on va dire « Ah ouais, mais là la fin du premier solo que t'as fait, elle est vraiment super, mais le début du troisième solo que t'as fait, il est vraiment super, donc est-ce qu'on pourrait pas les mettre ensemble pour avoir le solo le plus super possible ?» Donc c'est des bouts de live qui sont collés ensemble, mais
Non mais ça fallait pas le dire, Oscar, quoi. Là t'as révélé un secret, je suis désolé, là c'est pas possible.
C'est, c'est la réalité aussi, c'est-à-dire que tous les trucs sont faits sur le coup, c'est de l'instantané,
ouais.
Mais ensuite on fait un best-of
de l'instantané. Il y a un montage, il y a un peu d'édition.
C'est ça qui prend pas mal de temps, parce qu'on écoute toutes les prises plusieurs fois, et c'est un boulot qui est super à faire, hein, surtout avec leur matos là-bas.
Ouais.
Et puis ensuite, bah, si vous voulez avoir le live sans retouche, vraiment le live, le vrai du live, bah, là il faut aller voir sur YouTube. On a fait notre concert de release party d'album et on a tout filmé, tout enregistré. Il y a 12 vidéos et là pour le coup, il n'y a pas de. On ne se cache pas, c'est sûr. Ouais.
Donc on vous retrouve sur les réseaux sociaux, vous avez un site internet, sur YouTube, comment ça se passe?
Il y a Instagram, Facebook et YouTube où c'est Jaco Collectif, donc J-A-K-O en majuscule et collectif en minuscule, et on est sur Spotify aussi, enfin sur toutes les plateformes de streaming, donc l'album, ouais, sur bah pareil, Jaco Collectif, Spotify, Apple Music et tout le, et le dernier ferme la porte, quoi, hein, c'est
d'ailleurs on a parlé de l'album, mais est-ce qu'il a un nom, cet album?
Oui, Tempête solaire, voilà, il s'appelle, c'est le nom d'un morceau.
Ah, c'est ça. Aucune référence à Alain Solaire.
Ouais, ouais,
nous a souvent fait la blague.
Ouais, c'était la blague et tout. C'était marrant à Manosque, mais là, c'est bon, on l'a déjà fait. C'est peu cher, quoi. Il va aller avoir les oreilles qui sifflent.
Ok, et donc, du coup, tout à l'heure, on a écouté numéro 1. Là, vous venez de finir d'enregistrer tout un album. Est-ce que vous avez vu une progression entre le premier morceau qui a quand même maturé 3 ans, je crois, que vous avez dit tout à l'heure, et maintenant ce que vous avez réussi à produire ensemble.
Une progression énorme.
Ouais, elle est intéressante ta question. Part. Tu parles de quand on joue le même morceau pendant 3 ans, est-ce qu'il a maturé le morceau, est-ce qu'il a évolué, c'était ça un petit peu la question, ou c'était
sur ce morceau, mais en règle générale.
En général aussi, ouais.
Dans notre musique, moi je trouve une progression énorme. Déjà, enfin moi personnellement en tant que musicien, ça m'a apporté beaucoup de faire ça, d'être confronté à ces problématiques là. Bah, il faut jouer tight, il faut jouer en place, il faut jouer bien, quoi. Déjà c'est ça. Et puis il faut jouer bien avec les autres. Oui, je trouve qu'on a tous énormément progressé, depuis qu'on l'a enregistré. Hein,
déjà pour le montage, il fallait faire des sortes de maquettes qu'on avait fait.
On a enregistré beaucoup de fois les mêmes trucs.
Voilà, voilà, à la maison et tout, et il fallait que ça, déjà, ça sonne, quoi.
Ouais.
Donc là, il y avait le gros travail, c'était intéressant, quoi, ça. Ouais. On a dû évoluer, quoi, pour sortir ça.
Tout à l'heure, je parlais de montage du live, par exemple, au studio, mais on se repose pas là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas un cache-misère, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sonne bien par nous-mêmes, sans les trucs fancy et sans les bonus, et là, ensuite, on peut aller
chercher un peu,
chercher
2-3 bonus,
quoi, le plus.
Après, Martin, tu veux dire un truc?
Bah, je pourrais rajouter que le fait qu'on ait ce projet-là, d'avoir un produit fini, ça nous a vraiment demandé une discipline, de se retrouver souvent.
Ouais,
là où avant, on improvisait, il n'y avait pas vraiment de pression, on était vraiment que dans l'instant. Mm. Là, il y avait un truc de deadline et de bon, il faut qu'on ait ce truc solide.
Ouais.
Donc oui, ça nous a beaucoup fait avancer tous ensemble.
Ah ouais, c'est intéressant ça.
Parce que c'est, est-ce que c'est le premier projet où vous êtes aussi impliqué?
On a quand même des projets avant, mais
est-ce qu'il y a eu d'autres fois, dans vos autres formations ou quoi, où vous avez ressenti ce truc de j'ai envie d'aller au bout, quoi?
Alors moi, je fais ma petite pub, je suis sur deux titres du dernier album de Capucine Olivier qui travaille avec Alain Solaire. Donc il m'a pris que sur deux titres. Déjà sur deux titres, c'était énorme, comment ça m'a mis la pression, comment j'ai travaillé là-dessus, quoi. Mais en soi, sinon, ce qu'on vient de faire là pour Jaco Collectif, pour moi c'est la première fois vraiment, c'est mon premier album sorti, quoi. Voilà, donc ouais, c'est assez énorme. Et Martin, t'as pas fait des choses toi un petit peu sur Paris, des recs un peu du studio?
Si, après il y avait moins de temps. Et c'était pas avec des amis du lycée, donc c'est vrai qu'il y a cet affect là avec des gens que tu connais depuis le lycée, il y a un truc un peu particulier. Après je dis pas que c'était pas super à Paris, c'était vraiment super et oui ça nous pousse à vouloir vraiment faire bien, quoi.
Et puis ça vous apprend aussi du coup, voilà, pour ton projet où t'as dû te mettre la pression pour deux morceaux, tu sais que pour Jaco Collectif, peut-être cette discipline, tu l'avais déjà.
Il y a 10 là, tu vois, de morceaux.
C'est sûr.
Oui, mais on est en phase d'apprentissage. Moi, je me considère toujours,
de toute façon, c'est toujours
en phase d'apprentissage, clairement, quoi.
Ça s'arrête jamais, hein, c'est sûr. Après, il y a deux phases aussi dans les phases d'apprentissage. C'est-à-dire, enfin, moi, par exemple, avant d'enregistrer l'album, j'étais plus dans une phase d'apprentissage où, bon, là, ça marche pas, ça joue pas, et il faut que ça joue. Et ensuite, quand ça joue, bien, là tu peaufines et tu continues d'apprendre toujours de nouvelles choses, de t'enrichir, mais enfin de t'enrichir de savoir musical, hein, évidemment. Mais avant ça, moi j'étais vraiment donc, personnellement dans un truc où bon là je suis pas tight, mes doubles croches elles sont pas en place, on a l'album qui arrive dans 6 mois, comment je peux régler ça parce qu'il faut que ça joue bien ça, sur l'album quoi. Donc il y a cette espèce de chronomètre et moi j'aime bien fonctionner avec des chronomètres parce que ça m'aide à me bouger, à vraiment bosser à la maison parce que ça fait longtemps que je suis tout seul chez moi à faire mes devoirs, tu vois, je bosse la basse dans mon petit studio, il y a pas un prof ou il y a pas un patron qui est là à te dire il faut que tu fasses ça pour la semaine prochaine, c'est moi, je suis là en mode bah, il faut que je fasse ça. Et donc d'avoir cet album qui représentait énormément pour moi parce que j'avais beaucoup investi de moi-même dedans, ça m'a aidé à régler des problèmes fondamentaux quoi, genre, disons quoi, cet album ça a été un axe de travail pour beaucoup de nous et pour Kevin aussi qui, je pense pour pas mal déjà, puis aussi c'est un exercice de composition, enfin il y a une vraie démarche de limite de pédagogique en fait hein, dans cet album finalement quoi, qui est un aboutissement de l'apprentissage, on a fini le didacticiel quoi, c'est un peu ça quoi.
Maintenant on va commencer l'aventure, maintenant faut gagner du pèse. <C'est ça. rire>
Ok, donc on va découvrir deux autres titres de l'album donc de Jaco Collectif, Tempête Solaire, donc avec le titre Tempête Solaire. Ouais. Du coup. Pourquoi vous avez choisi celui-ci comme titre de l'album ?
Ça, c'est, alors c'est la question des titres dans l'album, c'est une question qui est très houleuse.
Mais faut pas la poser.
Disons que en fait, cet album,
Majeur 7, je sais pas quoi.
Bah, au départ, ce morceau-là, on l'avait appelé, pour la petite histoire, on l'avait appelé Le Leak, parce qu'on l'a construit autour de, bah, vous allez l'entendre en écoutant le morceau, on l'a construit le morceau autour d'un riff de basse que j'avais proposé, et à la suite duquel on a mis un leak, donc
une phrase
mélodique et rythmique assez intense et qui est hyper farfelue, hein, vous allez le voir, et qui a un défi technique aussi, hein, cette phrase là, et donc du coup ça nous a pris la tête de réussir à faire marcher ce truc là qu'on voulait faire marcher, donc pendant très longtemps on appelait ça le leak, le morceau n'avait pas de nom. Et pourquoi Tempête Solaire, bah parce que je sais pas, moi je trouve qu'il me pète à la gueule un peu ce morceau, alors je vois un, c'est explosif quoi, c'est un peu stellaire, il y a enfin vous y trouverez l'explication que vous pourrez voilà, y trouver.
Puis on a eu la chance d'avoir la sœur de Oscar, Juliette Bardin, qui nous a fait un super clip animé sur le thème de l'espace, la tempête solaire. Quoi,
ouais, c'est quoi. La pochette de l'album aussi, elle a fait.
J'en profite pour faire une petite dédicace à ma sœur, merci Martin, mais qui a fait un travail monumental pour nous et nous a fait le design de la jaquette de l'album. Nous a fait donc ce petit dessin animé de 40 secondes qui lui a pris un bon bout de temps, beaucoup de travail quand même. Elle s'est beaucoup investie derrière nous. Elle nous a fait des posters, elle m'a aidé avec des dossiers de présentation. Enfin, elle a été super. Et voilà, donc n'hésitez pas. Juliette Bardin sur Instagram, voilà. Si vous voulez voir ces petites animations qu'elle fait, ces petites choses, c'est super quoi. Donc,
donc on va découvrir ça et puis ça sera suivi de Slapa Dabas.
Alors pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que c'est construit sur un riff de slap bass, donc on appelait ça slap la basse. Et voilà, c'est pas très glorieux.
Allez, et ben on va découvrir ça tout de suite. We'll be right back. Et c'était donc Jaco Collectif qui est avec nous ce soir sur Fréquence Mistral Digne. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc là, vous avez sorti votre album, vous avez fait une soirée.
Ouais, on peut en parler un petit peu. La release party à la capsule.
La capsule, et d'ailleurs, avant tout, je veux faire encore une dédicace à Alice Jean de la capsule, qui pareil, a fait un super boulot d'accompagnement. Moi, je suis allé la voir en disant voilà, j'ai ce projet, et elle m'a vraiment soutenu, elle m'a accompagné, elle m'a expliqué la démarche à suivre, elle m'a booké une date, elle nous a payé d'ailleurs aussi, genre, pour le concert. Elle a vraiment. Elle s'est mise en quatre pour nous aider, et c'est vraiment super sympa parce que d'avoir des structures comme la MJC de Manosque, qui propose ce que m'a proposé Alice, c'est rare. Et merci énormément à elle et à eux de nous avoir soutenus comme ça, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu vraiment sortir le truc avec un peu de panache quand même.
Ouais, ça nous a fait notre premier concert. On en a essayé de ramener le plus de gens possible.
Ça a bien marché.
On s'est mis une belle pression qu'on a beaucoup répété pour cette soirée-là.
Donc on est infiniment reconnaissant.
Ouais, voilà. Moi perso, je me sens un peu redevable. J'espère qu'on va pouvoir développer peut-être autre chose avec elle par la suite. Peut devenir potentiellement un acteur culturel de la région. Pourquoi pas? C'est très bien. Prendre ses responsabilités là. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est qu'on s'est mis la pression pour ce concert là, ce premier concert.
Et pas qu'un peu.
Et ça s'est bien passé. Et on a un sentiment d'accomplissement, et de passer du studio au live. C'est deux choses différentes, deux expériences différentes. Moi, ça m'a fait du bien, quoi, de jouer en concert avec mes gars et tout. J'étais content. Putain, on a réussi, quoi.
Ouais, bien sûr. Surtout qu'en plus, c'est de la musique qui se passe dans l'instantané. Enfin, ouais. Surtout, je pense à numéro 1, c'est peut-être le meilleur exemple de ça.
Ouais, d'impro, mais même sur tous les autres morceaux.
Sur tous les autres morceaux, on improvise beaucoup. Mais donc, en particulier numéro 1 ou d'autres moments, je pense par exemple à l'interlude du solo de guitare que vous pouvez voir, du coup, qui s'appelle Le souvenir du passé sur notre chaîne YouTube, là, qui est. Martin qui accompagne Kevin pendant que Kevin fait son solo de guitare, parce qu'on a pris nos solos sur scène, c'est-à-dire qu'on avait tous un moment comme dans l'album où on joue tout seul.
Ouais.
Donc c'est un peu, on se livre, on est vulnérable à ce moment-là, on improvise tout seul, on fait notre truc. Et donc là, Martin a accompagné Kevin et c'était vraiment super. Enfin, la vidéo
c'était
est
sur
hyper
le moment,
cool. D'ailleurs,
pas...
je vous invite vraiment à aller voir ça parce que c'était hyper cool.
C'était pas réfléchi, c'était... quoi. Martin, il se cale après. Enfin, c'était assez improvisé, quoi, finalement.
On a fait comme on faisait. Depuis toujours, chez toi, improvisé. Mais là, il y avait des gens pour être avec nous.
Ouais, c'était un vrai moment. C'était cool.
Ouais, c'était vraiment génial.
Vous avez échangé votre délire avec le public, et du coup, ça a pris. Et c'est ça ce sentiment, peut-être l'accomplissement.
L'accomplissement, pour moi, il est aussi, donc, comme je disais, donc, comme c'est de la musique improvisée, le fait de la performer en live à l'instant T devant des gens, c'est. C'est un accomplissement, puis c'est toujours de la nouveauté aussi, c'est-à-dire que c'est une chose de jouer chez nous, mais là il y a des stimulations différentes, il y a des gens qui nous regardent, il y a la lumière, il fait chaud, il y a un son qui est différent, on est dans un contexte qui est très différent du contexte habituel, et donc on va pas être sujet aux mêmes contraintes, on va pas avoir les mêmes inspirations, on va pas avoir le même rapport avec les autres musiciens parce qu'on les voit moins bien, donc on est obligé d'ouvrir plus grand les oreilles. C'est intéressant, c'est une situation dans laquelle on se met quand on fait des musiques improvisées qui est super, quoi. Moi j'adore ça, tu montes, on connaît le morceau, on le connaît par cœur, mais on sait pas vraiment ce qui peut se passer, et puis aussi à quel moment quelqu'un va se planter et comment on va réagir à cette
plantade. Il y a des trucs un peu comme ça là.
Et d'ailleurs, vous le remarquerez pas dans les vidéos du live, mais nous on le sait, on s'est beaucoup planté et on a su réagir ces plantades là en mode ah t'as pas fait la pêche, bon bah tant pis, on continue, où est-ce qu'on prend la sortie, tu loupes la sortie sur l'autoroute.
Vous saviez quand même, même dans le flou, vous saviez qu'à un moment, dans tous les cas, il fallait que ça s'arrête, et que le morceau a une forme de structure, quoi.
Et beaucoup d'écoute, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui est foiré, là tout le monde se retourne, tout le monde se regarde et dit ok, on va où maintenant, genre on continue de jouer,
mais on y va, hein.
Et on y
va, quand même,
ça, aucun doute, on y va, mais du coup quelqu'un doit prendre l'initiative. Par exemple, Martin est très bon pour ça, il va faire un fil, il va faire un truc à la batterie et on dit ok, c'était le signal, et on le chope et hop, on est sorti d'affaire. Et ça, c'est une discipline que j'adore parce que c'est plein de rebondissements, quoi.
Voilà. Et puis parce que vous connaissez aussi, l'avantage du côté justement familial et de jouer avec les copains d'avant, quoi.
Ouais, bien sûr. Après, de toute façon, c'est sûr, quand on se connaît, c'est beaucoup plus facile. Après, c'est vrai qu'il y a des musiciens qui sont très bons, qui ont cette capacité d'écoute
permanente.
Enfin, musicien très bon ou pas, pour moi, c'est aussi surtout relatif à cette capacité d'écouter vraiment ce qui se passe. Et quand on a assez de références, quand on a assez de culture, on va capter les signaux plus ou moins facilement. Par exemple, Martin, c'était assez facile pour lui de nous montrer la sortie, parce que bah, on sait tous à quoi ça ressemble un break de batterie de fin de forme. On sait tous à quel moment il tombe, on sait tous comment c'est censé sonner, et donc Martin, il a juste à le faire. Ok, c'était là, donc on lui laisse la responsabilité de décider quand c'est, mais tout le monde va le choper. Il n'y a pas de doute sur le fait que quelqu'un risque de ne pas l'entendre quoi, au final. Quoi, alors. Par exemple, le fil de batterie, ou ça peut être un regard, ou une phrase.
C'est moins concret un regard.
C'est moins concret, parfois on les loupe. Hein.
Eh ben, mais bon, ça se fait, hein, ça se fait au regard ah aussi. Oui, hein. Non,
c'est vrai que c'est sur les, dur, hein, sur les vidéos ça. Du live, on voit parfois un moment, il y a Kevin, il lève la tête à gauche, boum, et on y va, quoi. C'est, bon, il fallait le choper, le truc. Hein, mais...
ouais.
Et moi, par exemple, quand je chope pas le regard, souvent j'ai l'intuition parce que j'entends dans la phrase de Kevin qu'il est en train de faire, ah, ça c'est conclusif. Donc tu tournes la tête, et tu dis, ah oui, effectivement, c'était conclusif. Donc mais on y va. Quoi.
En vrai, pour résumer, il faut se regarder quand on joue.
S'écouter.
Oui, s'écouter, mais se regarder. Nous, notre prof, il nous avait appris un truc aussi, vision périphérique, c'est tu regardes pas les gens, mais tu fixes un point, mais tu vois tout le monde quand même.
Et donc chaque petit
donc,
geste.
Donc voilà, ça crée une connexion, le regard c'est important sur scène. C'est vraiment un truc, il n'y a pas que les oreilles non plus, on a tous les sens qui sont
puis le
en
pire
éveil.
Des trucs, le pire des trucs, c'est de se retrouver dans sa bulle. Enfin, moi, ça m'est arrivé souvent quand j'étais plus jeune, ça peut arriver. Enfin, on n'arrive plus à s'ouvrir, on est dans sa bulle, on pense qu'à nos petits problèmes techniques. Ah là là, mes doigts, j'ai mal là, j'arrive pas à faire ça. Et là, on se ferme et alors là, il ne se passe plus rien. Quoi. Donc, c'est sûr que le but, c'est de s'ouvrir le plus possible. Comme je dis souvent, je rigole avec ça, on ouvre nos chakras, tu vois, on se met en mode écoute. Quoi.
Mais vous êtes là pour jouer ensemble, en fait.
Au final, ouais.
Donc,
Donc du coup, quand est-ce qu'on pourra venir vous voir en live, puisque c'est quand même
c'est quand même le but.
C'est quand même le plus, ouais. Le partage. Mmh.
Mais alors ouais, le plus tôt possible. Le truc, c'est que on n'est pas encore tout à fait fixé. Là, on a un peu loupé le coche pour cet été, malheureusement. Et puis on avait d'autres choses. C'était un peu compliqué quoi, pour cet été, mais par contre, là, je suis en train de travailler activement à la programmation pour l'hiver, donc je pense qu'on devrait réussir à trouver pas mal de concerts dans le nord du département, et puis dans le 05 aussi, sur Gap, et puis vers Lyon aussi. Je sais qu'on va probablement jouer à Chambéry, mais alors pour les dates, je ne peux pas trop dire, mais ça va se passer entre septembre et janvier. En gros, et ensuite on va essayer d'avoir les festivals du sud, les festivals de Marseille et de la région PACA pour l'été prochain, pour l'hiver et l'été prochain. Mais alors, malheureusement pour cette année, il n'y a pas beaucoup d'actualité, mais c'est pas pour autant qu'il faut se débrancher parce qu'on arrive.
On y travaille.
On revient.
Puis on essaye de, vu qu'on est sur YouTube, sur Insta, on essaye quand même de poster du contenu un peu régulièrement. Et bah voilà, en attendant, on démarche, et puis si on n'a toujours pas de concert, on se voit pour faire. On avance quand même de notre côté, même s'il n'y a pas d'actu encore, mais on y travaille, quoi, ça va arriver.
Ok, donc on vous suit sur les réseaux sociaux pour avoir le maximum
les
d'infos.
Les news.
Carrément. Eh bien, on va se quitter sur deux de vos chansons encore de l'album. Donc, je ne vais pas vous poser la question des titres. On a bien encore le mot.
Cette fois-ci, c'est intéressant. Parce que Seven, ça a du sens.
Donc, il y a Kevin et Seven.
Alors Kevin, c'est parce que c'est un bug sur le titre.
Normalement, sur la clé USB.
Alors en fait, Kevin, c'est comme je disais tout à l'heure, on a tous nos morceaux solo dans l'album. Donc là-bas, on n'a pas eu droit ni au mien, ni à celui de Justin, ni à celui de Martin ce soir, mais vous pouvez les retrouver sur l'album, sur Spotify. Mais donc là, j'ai mis celui de Kevin parce que quand même, je le trouve très sympa. Et que j'aime bien. Comme Kevin n'est pas là, je trouvais ça cool de faire en sorte qu'il soit un peu avec nous quand même. Et donc c'est un morceau qu'il a appelé Souvenir du passé, où c'est un solo de guitare que vous allez découvrir. Souvenir du passé, parce que c'est une vieille composition qu'il avait faite il y a longtemps, et qui lui rappelait des vieilles choses, disons. Et l'autre morceau, qui s'appelle Seven, lui c'est intéressant parce qu'en fait c'est le morceau où on s'est pris la tête sur la composition et on a fait des choses assez complexes. Au niveau des métriques, par exemple, d'habitude on joue en quatre temps. Par exemple, c'est du 4-4, du 3-4, je crois qu'on a un peu de 3 aussi dans l'album. Mais là, en gros, c'est l'album aux mesures asymétriques. Donc, par exemple, le morceau aux mesures asymétriques. Donc ça commence en 5 temps, par exemple. Ensuite, on développe, on va sur du 7 temps. Puis ensuite, on a tout un passage qui alterne entre le 7 temps et le 9 temps, avant de revenir sur le 7 temps pour aller encore sur le 5 temps. Et donc on s'est pris un délire de métrique comme ça, et on... et on a fait de la musique avec, et finalement je trouve, enfin, moi personnellement, que la complexité ne ressort pas vraiment dans le morceau. Mm-hmm. Mais donc c'est voilà, c'est notre petite expérience de folie de
mesure asymétrique
et de on va dire de jazz moderne. Enfin, on entend souvent ce genre de procédé là dans les musiques actuelles, enfin dans le jazz actuel quoi. Les New-Yorkais font ça beaucoup, par exemple la musique assez expérimentale. Mais donc on a voulu s'essayer à l'exercice, et le morceau
Allez, eh ben on va découvrir ça. Merci à vous d'être venus.
Merci à vous.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Et à très bientôt.
Eh ben, à dans 2 semaines.
C'est ça. Ciao, ciao.
Thank you.